Livre de la Genèse, chapitre 26, verset 12.
Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Réoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba, l'Éternel lui apparut dans la nuit, et lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. » « Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et ils dirent, « Nous avons trouvé de l'eau », et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba, jusqu'à ce jour. Amen. Nous avons dans ce récit un homme qui est dans le plan de Dieu. Il est choisi, l'élu de Dieu, il est dans le plan de Dieu, il est béni, béni sous une forme, bien sûr, qui pour nous fait surtout image, mais il est béni de l'Éternel, et cela nous est affirmé par la parole. Et Isaac, qui donc, comme son père, n'a pas de patrie, il n'a pas encore de patrie, Isaac creuse les puits que Abraham, son père, avait déjà creusés et que les Philistins avaient comblés. Comblés, nous dit notre texte, avec de la poussière. Il les avait remplis de poussière. La poussière, c'est ce que l'on trouve à la surface du sol. Elle provient de l'usure du sol sur lequel on marche. Elle vient aussi de cette infime division qui s'opère par l'action des vents, des pluies, de la chaleur. Et enfin, elle porte avec elle tous les déchets de la circulation, de la vie. Et cette poussière n'est guère bonne. Elle est sale, elle est noire, elle est souvent nauséabonde, elle peut être écœurante. C'est la poussière qui est à la surface du sol dans ce monde. Dans ce monde, ne l'oublions pas, qui a été l'objet d'une malédiction, le sol sera maudit à cause de toi, et cela fut dit à Adam. Mais remplir des puits d'eau vive de poussière, de ce que l'on appelle quelquefois couramment la saleté, cette poussière, remplir ainsi des puits est un acte diabolique. Détruire des sources d'eau vive. Ces puits n'étaient pas seulement les réceptacles de l'eau, de ruissellement ou d'infiltration, mais c'était des puits d'eau vive, nous dit l'Écriture, c'est-à-dire alimentés par d'authentiques sources souterraines. Il y avait là des sources qui montaient, comme on le voit dans un autre texte, qui monte dans le puits que l'on creuse. Des sources d'eau vive, l'eau vive, désaltérante, bienfaisante, absolument indispensable à la vie. Et on pourrait même dire, le composant numéro un de notre corps et de beaucoup d'organismes vivants. Composant numéro un. Les amis, nous sommes composés surtout d'eau. L'eau, par conséquent, est indispensable. Vous savez ce qui arrive lorsqu'un malade se déshydrate. C'est excessivement grave et il faut intervenir de façon active. L'eau est donc ce qui apaise la soif, ce qui redonne courage aux voyageurs altérés, fatigués. Nous voulons nous représenter surtout la Palestine telle qu'elle était à ce moment-là. Il y avait des voyageurs qui la parcouraient. Ils avaient besoin de ces puits de place en place. Sans l'eau, d'ailleurs, sans l'eau sur la terre, et la Bible est assez prolixe dans cette idée-là, sans l'eau sur la terre, c'est la mort. Et cela, le Seigneur entend que nous le constations à toutes les époques. Le Seigneur Jésus a annoncé des famines, et les famines surviennent assez souvent en conséquence d'une sécheresse, absence d'eau, et nous en avons eu dans les temps modernes, tout récemment, même l'année dernière, et cette année, nous n'avons pas encore d'informations, mais sans doute y a-t-il encore des territoires qui sont touchés par la sécheresse, et où par conséquent la vie devient précaire, mais en tout cas, il y en a eu, je vous rappelle simplement, les récentes famines qui ont sévi en Afrique, et en Inde aussi, en Inde, des famines considérables. Nous n'avons pas l'air de nous en soucier, nous ici, parce que nous avons eu, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, un été, nous avons eu une certaine sécheresse, et puis on a arrangé ça avec un petit impôt supplémentaire qu'on a réparti aux agriculteurs, ça s'est bien passé, nous n'avons souffert de rien, mais pardon, il y a sur la terre maintenant de grands espaces où la sécheresse sévit, le manque d'eau. Et dans les perspectives de la bénédiction de Dieu, du règne du Seigneur. Alors la Bible nous montre les sources d'eau vive, hein, les sources d'eau qui seront jusque dans le désert, dans les coins les plus déshérités aujourd'hui de cette terre. Mais il est certain que ces choses sont arrivées à la famille patriarcale ici, comme au peuple d'Israël, pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Tout cela, pour nous, est un sujet de méditation, d'enseignement. Et aujourd'hui, dans notre temps, plus que jamais, dans ce temps de la fin, car il est très caractérisé aujourd'hui par les signes annonciateurs du prochain retour de Jésus, ce temps de la fin. Eh bien, dans ce temps de la fin, plus encore que dans les temps qui ont précédé, il y a des destructeurs, il y a des philistins qui détruisent et qui comblent les puits d'eau vive. Sur le plan de la loi des hommes, j'en parlais cet après-midi avec quelques frères et sœurs, il y a actuellement une destruction en cours de réalisation dans les dispositions pénales des pays occidentaux. Et actuellement, la chose se présente surtout en Suisse. En Suisse, je crois vous avoir déjà signalé la chose, c'est quelque chose qui soulève d'ailleurs là-bas de très graves difficultés, un tollé bien sûr. Il y a eu cette année, au mois de février, une prédication très retentissante dans la cathédrale de Lausanne, qui, vous le savez, est protestante, une prédication à ce sujet. Et le pasteur qui a fait cette prédication n'a pas hésité à appeler le monde, quelle que soit la position de chacun dans la vie chrétienne auprès de son Église, quelle que soit même son assiduité aux réunions. Jusque-là, il a invité tout le monde à entrer dans la repentance et dans la prière, car les dispositions en vue pour réformer le code pénal s'appuient sur cette frénésie d'ouvrir ce qu'on appelle la liberté et qui est la permissivité. Nous sommes dans un temps, vous savez, qu'on appelle le temps de la permissivité. Tout est permis. Il faut élargir de plus en plus le domaine de ce qui est permis en supprimant ce qui est interdit et défendu, même ce qui est moral. Et puis, une autre chose, un principe qui apparaît, un principe diabolique, hein, qui est celui des crimes sans victime. Et les réformateurs du code pénal font valoir qu'il y a aujourd'hui des dispositions dans le code pénal, aussi bien le code français que le code anglais, que le code de tous les pays occidentaux. Il y a des dispositions et qui répriment certaines choses. Or, ces réformateurs estiment que cette répression doit être supprimée, ces interdictions supprimées, parce que il y a des crimes, disent-ils, ce qui est qualifié crime dans le code pénal, des crimes sans victime. Et pour vous en donner un exemple, ils désirent que l'on supprime toute disposition concernant l'inceste, car, disent-ils, il n'y a pas là de victime. L'homosexualité L'homosexualité, ce sont des crimes, disent-ils, sans victime. C'est à faire disparaître des dispositions pénales et toutes sortes de choses à l'avenir. Alors aujourd'hui, voyez, nous avons des destructeurs sur, non seulement dans le peuple, non seulement parce que l'iniquité se propage, s'accroît en raison même du refroidissement de l'amour envers Dieu, mais nous avons des destructeurs officiels, des gens insensés. Insensés, c'est le mot de la Bible, cela. Qui porte atteinte à ce qui fait vivre, à ce qui protège encore maintenant la vie de l'homme, et qui porte atteinte à la morale, qui porte atteinte à la sainteté, à l'espérance dans la foi en un Dieu sauveur et juste, et qui s'ingénie à détourner la jeunesse de la vérité, de la foi, qui prêche le matérialisme, l'athéisme, ces gens-là comblent les puits d'eau vive. Le Seigneur avait mis dans ce monde des puits d'eau vive. Il y avait des puits d'eau vive, et nous savons très bien, nous devons l'admettre, que dans notre christianisme, les puits d'eau vive se font de plus en plus rares. Ils comblent les puits d'eau vive de leur poussière à eux. Leur poussière, cette poussière noire dont je parlais, écœurante. Et cela, ils le font maintenant avec une sorte de passion. Et cette passion est certes animée par l'ennemi de nos armes. Les destructeurs des puits sont ceux qui éteignent la lumière de la vie. Et c'est quelque chose, hélas, de tellement caractéristique dans notre temps. Chers amis, il faut que nous vivions en observateurs de notre temps. Car vous savez, il est vrai que le retour d'Israël, le rétablissement de la nation d'Israël est un grand signe, un signe de nature politique. Mais il y a un grand signe de la fin des temps, c'est celui que nous donne le Seigneur dans son discours eschatologique, lorsque il dit « la charité du plus grand nombre des hommes se sera accrue parce que l'amour se refroidira ». Vous voyez, n'est-ce pas, l'amour s'en va, l'amour envers Dieu et envers les hommes, le véritable amour, l'amour s'en va. Et l'iniquité monte, c'est la montée fabuleuse, stupéfiante de l'iniquité sous tant de formes. Et il y a des gens qui poussent à cela, et des gens placés partout, des gens qui malheureusement disposent de moyens d'autorité sur les peuples, sur les nations, ceux qui éteignent la lumière de la vie, ceux qui empêchent les jeunes de croire en Dieu, ceux qui aussi, même s'ils n'attaquent pas de la foi en Dieu, ils attaquent la confiance en Dieu. Ils rationalisent la parole de Dieu. Ils empêchent les cœurs d'avoir réellement confiance. Cela même dans des milieux chrétiens, dans des fractions du christianisme, on fait cela, on rationalise la parole de Dieu, ce qui a pour effet d'exclure toute confiance. Comment pourrait-on avoir confiance en un Dieu qui ne fait rien, alors que toutes les choses qui peuvent être portées à notre connaissance par la Bible sont dites des choses naturelles, qui se sont produites selon le jeu des lois de la nature. Et alors, cette confiance en Dieu, par quoi la remplace-t-on ? Par de la poussière. Là où montait l'eau vive, on jette cette horrible poussière. Et là, cette poussière, c'est l'orgueil. L'orgueil imbécile et pédant, disait une dame. Ce n'est pas moi qui ai pris ces termes. L'orgueil imbécile, pédant et bestial. Voilà ce que disait Madame Berthe Gavalda, agrégée de l'université, professeure de philosophie, et qui est une croyante, qui connaît d'ailleurs très bien l'hébreu et la Bible. Et voilà ce qu'elle disait en face à notre temps. Voilà, maintenant, tout ce qui était vrai, tout ce qui était aimable, tout ce qui était précieux, tout ce qui faisait vivre, on le remplace par l'orgueil imbécile, selon les termes de cette dame, pédant, l'orgueil bestial. Et qu'est-ce que vous voulez, c'est littéralement vrai. Hélas, c'est vrai. Ceux qui éteignent la lumière de la vie, ceux qui détruisent comme autrefois les Philistins, sont ceux qui détruisent la vérité par leurs discussions prétentieuses, qui ravalent le Christ de Dieu à la pauvre et maladroite compréhension humaine. Ceux qui le nient, bien sûr, ou qui le renient. Tous ceux qui, à des postes élevés, politiciens, idéologues, sociologues, philosophes, travaillent pour ce qui périt, travaillent pour déifier Dieu, pour cet humanisme athée qui contient en lui le, on peut dire, tout ce qui est le plus terrible, le plus redoutable contre la foi. Alors, chers amis, prenons garde à nous-mêmes. Je voulais, par ces choses, vous avertir, vous qui allez retourner dans dans vos villes, dans vos maisons. Vous allez retrouver votre milieu, votre église, mais votre milieu professionnel aussi, ou votre quartier. Prenez garde à vous-même. Nous avons fait ici une retraite, et vous voyez que nous avons été amenés à mettre quelquefois un accent un peu sonore, un peu imposant sur les vérités de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui ? Il faut ces vérités les proclamer avec force. Elles ne demandent plus à être susurrées. Il faut vraiment les affirmer avec la force et peut-être même la violence d'un Jérémie. Eh bien, vous allez retourner là et vous allez constater, en effet, des faits qui s'apparenteront à ce que nous venons de dire. Et méfiez-vous pour vous-même. Il faut d'abord que vous preniez garde à vous-même. Que vous preniez garde de ne pas dans votre puits d'eau vive. Car n'oubliez pas, Proverbe 5, que le Seigneur vous donne à chacun un puits d'eau vive. À chacun. Lisez Proverbe 5, nous ne le faisons pas maintenant, versets 15 à 18. Ta source, la source que j'ai mise près de toi, comme le Seigneur avait mis près la servante égyptienne de Sarah avait mis dans le désert un puits d'eau vive, car elle se voyait mourir avec son fils. Eh bien, le Seigneur a mis auprès de chacun de nous un puits d'eau vive, et ce puits, il l'a placé là où il le fallait. Où donc ? C'est toujours le livre des Proverbes, au chapitre 4, qui nous le dit. Les sources de la vie, où sont-elles ? Où sont-elles pour toi ? Elles sont dans ton cœur. C'est dans le cœur que Dieu place les sources de la vie. C'est là qu'il a mis un puits d'eau vive. C'est là que le Saint-Esprit, c'est par là que le Saint-Esprit agira en toute chose, à l'égard de tous vos besoins. et pour vous retenir et pour vous conduire, pour vous guider. Les sources de la vie sont dans ton cœur. Ton cœur, c'est lui qui contient ces sources. Alors, il faut prendre garde à ne pas mettre soi-même de la poussière, à ne pas soi-même combler par cette poussière le puits d'eau vive que le Seigneur nous a donné. Il faut que ce puits soit propre, soit bien creusé, il faut que l'eau jaillisse, que le Saint-Esprit soit là constamment dans notre cœur pour nous éclairer, pour nous retenir, je le dis bien, nous avons besoin d'être gardés. Cette poussière qui serait susceptible de combler nos sources, on peut la caractériser de cette manière, ce serait l'usure. La poussière vient de l'usure du sol. L'usure de quoi ? De notre zèle. L'usure de notre zèle serait peut-être notre lassitude. Vous savez que c'est une chose qui menace la vie chrétienne, cela, la lassitude. On fait les choses depuis tant de temps, on a entendu déjà bien des fois certains passages de la Bible, on a chanté toujours les mêmes cantiques, les réunions se ressemblent, et puis soi-même on entre dans une habitude, et on est actionné, l'homme humain, l'être humain est actionné par l'habitude. Alors méfions-nous de cette lassitude, restons fervents. Méfions-nous aussi des bruits du monde qui pourraient constituer cette poussière venue combler notre puits d'eau vive, l'intérêt porté à ce qui est inutile. Je ne dis pas seulement mauvais, je ne dis pas seulement péché, je n'aime pas cette question que l'on pose quelquefois, « Oh ben, ceci, cela ». Ça n'est pas péché, ça. C'est pas péché. Ce n'est pas une façon de parler, ça. C'est une mauvaise direction de la pensée. Il ne s'agit pas de savoir si c'est péché ou ça n'est pas péché. Il s'agit de savoir si ça la plaît au Seigneur, si c'est dans sa volonté ou non. Si c'est pur ou si c'est impur. Si c'est profane ou si c'est saint. Voilà ce qu'il s'agit de savoir. Avant toute chose, mais qualifier de péché ou de ne pas péché, évidemment, il y a un tas de choses, on pourrait dire, non, a priori, ça n'est pas le péché. Ça n'est pas le péché, mais c'est quand même l'œuvre ténébreuse. Ça peut être l'œuvre ténébreuse. Alors, prenons garde à l'intérêt que nous pourrions porter à ce qui déprime la foi, à ce qui la détruit. Et par exemple, a pas mal de convoitises. Alors là, je ne vais pas vous en parler dans le détail, parce qu'elles sont tellement variées, nombreuses. Mais la convoitise, c'est quelque chose qui est très en lumière dans la Bible, quelque chose contre quoi la parole de Dieu nous met en garde. Les convoitises, l'avidité, dit l'Ancien Testament, il l'appelle dans nos traductions, l'avidité. Nous avons besoin de l'eau vive, de celui qui était assis au puits de Jacob et qui offrait l'eau vive à la Samaritaine. Ah, nous avons besoin, l'eau vive. Si tu savais qui est celui qui te propose de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et l'eau que je donne, elle désaltère pour la vie éternelle. Nous avons besoin de l'eau vive de notre Seigneur et Maître. Nous avons vu dans notre récit que Isaac creuse à nouveau les puits qu'on a comblés. Il les creuse à nouveau, et cela pour nous aussi est une image très éloquente. Nous avons besoin de creuser à nouveau. Il est certain que peut-être des choses vont se fermer, des choses vont peut-être être périmées, il y aura peut-être nécessité dans le détour de notre vie, de notre existence, de creuser à nouveau Et le Seigneur nous dit de creuser, et il nous dit de prier aussi pour que l'eau monte, monte dans le puits, monte, eau dans le puits, monte, disait un cantique d'Israël. Et pour creuser, il faudra que nous déblayions notre âme de toutes les poussières que l'usure de la vie a pu y accumuler. Je dirais même, j'oserais dire, des détritus, débarrasser le puits d'eau vive, des détritus, des dépôts malsains, que les contacts, les conversations, les lectures, ce qu'on a vu aussi, les déceptions, les propos absolument dénués de foi, que tout cela a déposé dans notre puits d'eau vive, c'est-à-dire entraver la montée de l'eau, la montée, la venue du Saint-Esprit. Saint-Esprit n'est plus là pour affluer à notre cœur, pour nous réjouir, pour nous donner cette vigueur et on peut dire aussi cette verve que nous voyons dans certains des serviteurs de Dieu et qu'ils ont gardé eux. Creusons donc dans notre être intérieur les retraites où l'eau vive pourra jaillir. Et nous avons trois sources principales à rétablir, trois sources, celle de la foi. Oui, celle de la foi, car la foi, vous savez, si elle n'est pas alimentée constamment, si elle n'est pas utilisée, utiliser constamment en saisissant les objets que la parole de Dieu met devant nous, la foi peut elle-même s'atrophier. Son cours, disons-nous, pourrait se ralentir et n'être qu'un petit filet d'eau. Nous avons donc cette source sur laquelle il faut veiller. Nous avons l'espérance, foi, espérance, amour. Ce sont les trois éléments que nous trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 13, à la fin de chapitre 13, et ces trois éléments qui étaient toujours présents dans la pensée de l'apôtre Paul. Foi, espérance, amour. Certes, la foi et l'espérance vont prendre fin au moment où la vue remplacera la foi, où nous serons en présence du Seigneur, il n'y aura plus que l'amour. Certes, l'amour fera office de tout. On n'aura plus besoin de foi, puisque nous le verrons, puisque nous serons avec lui pour l'éternité. Mais pour l'instant, nous avons besoin de foi, d'espérance et d'amour, afin que ce qui est éphémère, c'est-à-dire ce qui périt, ce qui est imparfait, ce qui est débilitant pour la foi, ce qui fait échec à la vie, soit remplacé par la ferveur, par des joies pures, par un zèle renouvelé, et cela sous la pression de l'eau vive qui vient du puits. Et je terminerai en relisant l'un des versets de notre première lecture, dans le chapitre 26, le verset 24. 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit, et il dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur, à cause d'Abraham. » Et le Seigneur nous tient ce langage aussi. Il veut nous apparaître, c'est-à-dire, il veut rendre sa présence sensible, il veut rendre sa voix audible intérieurement. Chapitre 10 de Jean, le bon berger parle et ses brebis entendent sa voix. Il veut parler en nous, le bon berger, et nous dire cela, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ou bien, Abraham est notre père, le père des croyants. Oui, nous avons été nommés en Isaac, dans la postérité d'Abraham, mais surtout, nous avons le Seigneur Jésus et le Seigneur de nous dire, je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, une postérité, certes, qui ne sera pas la descendance dans la chair nécessairement, cela peut prendre aussi une petite place, mais une petite, mais une postérité spirituelle. Mes amis, nous avons encore à engendrer des âmes. Et c'est délicat d'engendrer, c'est très délicat. Oh, il faut absolument que toutes les forces, tous les ordres, toutes les régulations, je dirais naturelles, et là elles sont surnaturelles, interviennent pour que nous puissions engendrer des âmes à la vie nouvelle. Je te bénirai, tu auras une postérité, ton témoignage va être reçu, il va porter, ce ne sera plus du babillage, ton témoignage, ce ne sera plus un flot que tu vas déverser jusqu'à obscurcir l'esprit de ceux qui t'écoutent, mais ce seront des paroles brèves, des paroles vraiment... donné que tu recevras par le Saint-Esprit et tu auras une postérité à cause, non plus d'Abraham, mais à cause de Jésus, mon fils, nous dira le Seigneur, à cause de Jésus, mon fils, qui pour toi maintenant, après avoir été un sauveur, est un Seigneur. Est un Seigneur, et celui qui t'inspire, et celui qui te nourrit, et celui qui est avec toi, alors à cause de lui, je te bénirai. Si toi, tu dégages les puits de ton cœur, et tu laisses l'eau vive du Saint-Esprit monter abondamment, et même se déverser dans toutes les manifestations de ta foi, que le Seigneur le permette. Amen.